Charlotte Vignon, bonjour. Vous êtes notre invitée pour cette troisième émission de l'invité de la Tribune de l'Art. Vous êtes directrice du musée de Sèvres et vous êtes arrivée dans cette institution il y a 3 ans, juste avant le Covid, je crois. Donc 3 ans, c'est déjà un bilan qu'on va pouvoir faire sur les projets que vous souhaitez mener dans les années à venir. Est-ce que vous pouvez d'abord nous rappeler votre parcours, puisque vous êtes évidemment passé par les États-Unis, mais avant les États-Unis et ensuite à la Frick Collection, et maintenant, pourquoi Sèvres ?
Bonjour Didier, c'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Effectivement, j'ai passé la plupart de ma carrière aux États-Unis, près de 23 ans. Donc je suis partie étudiante et spécialiste de mobilier 18e pour étudier la collection de mobilier et d'objets d'art du Cleveland Museum of Art, où je suis restée 5 ans. Après, j'ai fait des petits passages assez brefs au Getty, à la Huntington pour des recherches, et un passage un peu plus long de 2 ans au Metropolitan Museum of Art, et effectivement 13 ans comme conservatrice des objets d'art à la Frick Collection de New York. En parallèle, j'ai écrit ma thèse, que j'ai soutenue à la Sorbonne, et cette thèse étudiait effectivement le commerce de l'art entre les États-Unis et l'Europe dans les dernières années du 19e siècle, les premières années du 20e siècle, en suivant le parcours assez extraordinaire des marchands, les Duveen Brothers. Donc ça, c'est un peu mon parcours avant de rentrer à Sèvres. Effectivement, je suis rentrée 15 jours avant le premier confinement. C'était un peu une arrivée un peu difficile parce que j'ai pratiquement connu cette institution en période de crise parce que toute cette pandémie, finalement, a énormément changé nos façons de travailler et ont beaucoup perturbé surtout les institutions culturelles. Donc forcément, j'ai eu 2 ans qui ont été quand même de gestion d'un musée en période de crise sanitaire. Et maintenant, j'ai l'impression depuis quelques mois, on décolle, on peut effectivement voir un peu plus l'avenir, planifier et se ressaisir et penser à comment aborder ce nouveau monde, parce que le monde a quand même changé, notamment au niveau des expositions, des prêts et beaucoup de choses. Donc, de se positionner. Donc, j'ai un peu l'impression finalement de commencer vraiment mon travail et mon temps à Sèvres depuis quelques mois.
Et pourtant, vous avez fait de nombreuses acquisitions dont on a parlé sur la Tribune de l'Art. Alors, avant de parler de ces acquisitions, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur votre parcours antérieur, peut-être pas avant au Metropolitan Museum et avant Cleveland, etc., mais 13 ans à la Frick Collection, 13 ans, c'est long. Donc, dites-nous, rappelez pour les auditeurs qui peut-être ne l'ont pas visité, ce qu'est la Frick Collection très rapidement. Je sais qu'elle est fermée actuellement, puisqu'il y a des travaux, elle va s'agrandir. Et la collection dont vous vous occupiez, pouvez-vous dire un mot ? Vous avez fait des acquisitions aussi, je crois, là-bas. Et vous recherchez aussi beaucoup de mécénats. Vous avez trouvé des mécènes, et c'est peut-être quelque chose d'ailleurs que vous ferez, j'espère, pour la manufacture, pour le musée de Sèvres. Donc, un petit peu sur la Frick Collection.
C'est une institution qui est... c'est un très, très beau musée. C'est la maison d'un collectionneur, Henri Clay Frick, qui a collectionné vraiment et qui a assemblé à la fin du 19e siècle une collection de chefs-d'œuvre et qui l'a présenté dans sa maison sur la 5e avenue à New York et qui l'a présenté effectivement en créant un écrin pour cette collection de tableaux. Et il a acheté des très très beaux meubles, très belles porcelaines, beaucoup de sculptures, tapisseries et autres pour vraiment présenter sa collection de tableaux de maîtres anciens. C'est une collection qui s'est faite rapidement, en 20 ans. Une collection qui a été essentiellement faite grâce à des grands marchands, Wildenstein, Nödler et bien sûr les Duveen. Et c'est un des musées préférés des Français, ça c'est sûr, quand ils vont visiter New York, parce que c'est une collection très européenne. C'est vraiment la maison d'un collectionneur, ça ressemble un peu à Camondo. Mais c'est aussi surtout, c'est une collection qui pendant des années n'a pas énormément évolué Et depuis 20 ans, je vais dire, notamment avec l'arrivée de Colin Bailey et d'Ann Poulet, qui était la directrice, et Colin Bailey, qui était le conservateur en chef, ils ont vraiment changé le statut de cette institution en organisant de très, très belles expositions, très pointues, et en faisant aussi des acquisitions. Donc moi, je m'occupais de tout ce qui n'était pas tableau, et pas sculpture, et donc tous les meubles, voilà, donc tous les meubles, toute la céramique, l'argenterie, les tapis, et puis tout le côté period room, c'est-à-dire vraiment les décors en fait. Donc ça, c'était beaucoup d'objets très variés, et tous les bronzes dorés aussi. Et donc j'ai organisé beaucoup d'expositions. Beaucoup d'expositions, à un moment j'en organisais presque une par an, et quelques expositions, notamment une qui est venue en France au Musée des Arts Décoratifs sur Pierre Gouthière, le grand bronzier ciseleur d'horreur du roi, un grand artiste du XVIIIe siècle, et puis après sur Sèvres, sur une collection d'horloges, beaucoup sur Meissen. Enfin, j'ai pas mal fait d'expositions et puis aussi des acquisitions, c'est-à-dire qu'effectivement j'ai acheté ou obtenu de recevoir des collections un peu en bloc notamment de céramique, du paquet, donc céramique du 18e de Vienne, Meissen, etc. Et puis des achats, notamment de Pierre Gouthière.
De Jean-Louis Pierre Gouthière, par exemple, dont nous avons parlé. Alors évidemment, nous aimerions parler de toutes les acquisitions de tous les musées du monde, mais nous ne sommes pas suffisamment nombreux. L'équipe s'est étoffée au fur et à mesure, et donc on parle plus maintenant d'art décoratif, mais on a parlé, par exemple Bénédicte Bonnet-Saint-Georges, j'avais écrit sur les deux chandeliers de Pierre Gouthière que vous aviez acquis en 2016, si je ne me trompe pas. Donc vous suivez beaucoup le marché, en fait.
Oui, j'ai toujours, mais de toute manière, dès l'origine, j'ai envie de dire, puisque je voulais être commissaire-priseur. Donc c'est pour ça que j'avais une formation de droit et complétée par maintenant une thèse en histoire de l'art. Et ma thèse a été sur le marché de l'art. Donc je suis beaucoup le marché de l'art. Les marchands sont des très, très grands acteurs du marché de l'art. Les collectionneurs me passionnent. Et je pense que les musées ont un rôle actif dans ça. Et effectivement, comme j'ai travaillé pendant 13 ans dans la maison d'un collectionneur, forcément j'ai beaucoup étudié ce qu'il a acheté, comment enrichir cette collection, comment la compléter, si c'était possible d'ailleurs de la compléter. C'est très très difficile de compléter une collection faite comme ça, celle d'Henri Clifford. C'était un vrai challenge.
Et la Free Collection ne peut toujours pas prêter en dehors des choses qu'elle a achetées depuis le legs.
Exactement. Donc tout ce qui a été acheté par Henri Clifford, donc tout ce qui est acheté avant 1919, puisque c'est la date de sa mort, ne peut pas être prêté. Il y a eu des exceptions ces quelques dernières années, notamment vous avez vu les Whistler qui ont été prêtés au musée d'Orsay l'année dernière, parce que le musée est fermé pour rénovation. Une partie des collections sont présentées au Frick Madison, qui est un bâtiment de Marcel Breuer, qui était aussi l'ancien Whitney, pour ceux qui connaissent New York. Et donc une partie de la collection est présentée là-bas. Mais c'était l'opportunité de présenter hors de New York, hors de France, hors des États-Unis, pardon, des œuvres de l'Afrique.
Et le testament prévoit cela ou
le testament de Frick est assez extraordinaire parce qu'en fait, il est très ouvert. Et comme tous les testaments, c'est un acte juridique qui peut être interprété. Et le testament d'Henri Clifford dit que la collection de Monsieur Frick doit être accessible au public pour le plaisir. J'essaie de le traduire dans ma tête, c'est pour ça. For the enjoyment of the American public. Donc pour le plaisir du public américain. Donc en fait, on peut très bien le traduire en disant, si le musée est fermé pendant quelques années pour rénovation, à ce moment-là, les collections peuvent avoir.
Il n'a pas interdit strictement les prêts, en fait.
Non.
Voilà. Donc voilà. Donc très rapidement, parce qu'on ne peut pas résumer 13 ans de. À la conservation d'un musée à quelques minutes. Donc vous arrivez en France 15 jours avant le Covid, donc effectivement c'est quelque chose d'un petit peu difficile. Mais alors il y a beaucoup de questions que je vais vous poser sur le musée de Sèvres. Une des premières questions, peut-être pas la plus facile, c'est que quand on rentre dans le musée, on a l'impression qu'il n'a pas beaucoup bougé depuis longtemps. Ce qui n'est pas forcément un mal, parce qu'une muséographie ancienne, c'est agréable. Mais il y a des, je crois qu'il y a des, enfin, j'ai vu quelques photos récentes là, qui ont pris des amis, avec des vitrines enfin, qui sont avec du plastique par-dessus, avec tout n'est pas ouvert. Enfin, c'est, il y a des travaux à faire, certainement.
Effectivement, une rénovation s'impose. Et d'ailleurs, c'est le projet de rénovation qui m'a intéressée. Et c'est pour ce projet de rénovation que j'ai pris ce poste. C'est-à-dire qu'effectivement, de quitter les États-Unis après toute une carrière et une grande partie de toute ma vie d'adulte, pour revenir à Sèvres, il fallait qu'il y ait un vrai challenge. Et le challenge, c'est effectivement la rénovation du musée. Ça, il n'y a aucun doute. Une équipe, d'ailleurs, a été recrutée avant moi, avec des jeunes conservatrices aussi dans ce but. Une équipe très, très, une très belle équipe de jeunes femmes, jeunes quand même, elles sont plus jeunes que moi, mais très dynamiques et très intelligentes et qui veulent aussi, et on travaille ensemble à ce projet de rénovation. Ensuite, c'est un projet à long terme. Donc on est sur une phase d'étude et d'essayer de le mettre dans le calendrier comme une priorité.
Est-ce qu'il y a un budget déjà pour cela, ou est-ce que c'est vraiment... Quel est l'horizon chronologique, enfin le délai?
Alors, il y a un projet. On y a travaillé d'ailleurs pendant toute la période Covid, ce qui était assez, assez intéressant. On a eu un an de travail avec les conservatrices pour vraiment reprendre un projet qui existait déjà, parce que la rénovation du musée est quelque chose qui intéresse quand même les anciens directeurs. Donc il y avait plusieurs projets, notamment un PSC, donc un projet scientifique et culturel en 2018 qui avait été élaboré avec une planification d'un projet de rénovation. Donc on l'a repris, on l'a amendé, on a proposé une nouvelle vision. Donc la vision et le projet existent, j'ai envie de dire. Ensuite, ce projet dépend d'un chantier des collections qui demande de vider toutes les réserves qui se trouvent en ce moment au rez-de-chaussée du musée. Et on est en plein chantier des collections. Donc là, on est en train de vider ces réserves. Et après ce gros travail, on pourra effectivement commencer la rénovation du musée. Et en parallèle, forcément, on est à une étape d'étude. Donc on n'a pas encore de budget. Et on a un calendrier qui se dessine dans quelques années. C'est pas demain ou après-demain.
Ouais, ça veut dire que le début des travaux, vous ne le connaissez pas, la date de début des travaux.
Et pour l'instant, je ne peux pas le partager.
D'accord. Et le musée fermera ?
J'ai une chance énorme de travailler dans ces plusieurs grands musées américains. Et à chaque fois, c'était lors d'un moment de transition et de transformation et de travaux. Et je n'ai pas vu un musée qui a pu être rénové sans un moment être fermé. Donc on essaiera de faire en sorte que ce temps de fermeture soit le plus court possible, bien évidemment. Mais forcément, il sera... Alors le grand avantage du musée de Sèvres, c'est que la structure est très belle. C'est un très beau bâtiment fin 19e. Moi, comme vous, je partage aussi le côté des... J'apprécie beaucoup les anciennes, en fait, présentations. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez... Justement, à une époque où on est très dans une recherche tout le temps de nouveautés. Je trouve que c'est bien de se reposer aussi la question et de repenser ces musées. C'est le musée national de céramique, donc il faut qu'il ait un peu son gravitas.
C'est un peu pour ça que l'état actuel fait peine à voir et n'est pas digne d'un musée national.
Ça, c'est évident. Mais c'est aussi un musée qui demande à présenter les collections nationales de céramique de façon assez encyclopédique, peut-être assez traditionnelle.
Ce n'est pas encore le cas, objectivement.
Non, ce qui n'est pas encore le cas, puisqu'une plus grande partie de nos collections sont en réserve, et notamment on a des pièces très importantes en réserve. Donc on travaille à ce projet, ça, c'est sûr.
Et donc ça arrive à un moment en plus un petit peu, pas difficile, parce qu'il ne faut pas exagérer, mais c'est vrai que vous, l'ancienne directrice, parce que vous faites partie d'un ensemble, je crois, peut-être rappelez-nous exactement ce que comprend ce qu'on appelle la cité de la céramique, moi j'aime pas beaucoup ce terme, mais enfin la cité de la céramique, quels sont les établissements inclus dans cette entité?
Alors, on peut appeler cette institution, cet établissement public, la Cité de la Céramique. Vous pouvez aussi entendre le mot Sèvres et Limoges manufactures et musées au pluriel nationaux, qui incluent donc la manufacture de Sèvres, le musée national de céramique, qui est donc adjacent à la manufacture de Sèvres, et le musée Adrien du Boucher, qui se trouve à Limoges. Donc trois institutions dans un même établissement public.
Alors, des institutions qui n'ont plus de... Je ne vais pas vous demander de rentrer dans des choses qui ne peuvent pas, que vous ne pouvez pas dire. C'est normal, hein, c'est une période de transition. On ne sait pas ce que ça va nous dire, mais je sais qu'il y a... Je ne sais pas ce que vous pouvez en dire, mais je sais qu'il y a donc la précédente présidente qui est partie. Donc, on a une période de transition, comme je le disais, avec une étude qui était demandée à Hervé Lemoine de voir les... Hervé Lemoine, qui est le président du Mobilier National et de la Manufacture des Gobelins, pour voir quelles sont les synergies possibles. Est-ce que ça préfigure d'une fusion des entités ou pas du tout? Ou est-ce que c'est exclu dès le départ ou c'est une possibilité?
Pour l'instant, on ne parle pas de fusion. On est à la recherche de synergie. Effectivement, c'est le mot qui est employé, donc je vais l'utiliser également. Effectivement, la directrice générale par intérim, Irène Basilis, et Hervé Lemoine, président du Mobilier National, ont effectivement reçu une lettre de mission. Donc chacun a reçu sa lettre de mission, qui leur demande d'étudier des synergies possibles entre ces deux institutions publiques. Là, nous sommes à une phase qui commence vraiment maintenant de rencontres et d'échanges entre nos équipes. On a beaucoup de séminaires de travail, de groupes de travail sur tous les sujets qui communs ou pas à nos établissements. Mais voilà, ça va étudier la gestion de nos collections jusqu'à la politique nationale et internationale, bien sûr la création, la production. Donc il y a plein de sujets qu'on va étudier et on l'étudie de façon très sérieuse au niveau des directeurs. Donc on est à ce niveau-là. Et ces groupes de travail vont se réunir jusqu'en mi-janvier, mi-fin janvier. On a des dates dans le calendrier. Et on va ensuite soumettre nos rapports à Irène Basilis et à Hervé Lemoine. Et on est vraiment dans un très, très bon dialogue. On essaye de partir sans aucun a priori, sans aucune idée préconçue. On ne sait pas, en fait, quelle forme pourrait avoir ce rapprochement s'il y a. Est-ce que ça sera que au niveau de projet? Est-ce que ça sera de façon administrative? Pour l'instant, absolument tout est ouvert et c'est intéressant et c'est important de se mettre dans cet état d'esprit, du moins nous on est dans cet état d'esprit, pour justement étudier toutes les possibilités, voire inventer, réinventer, penser des solutions qui n'ont pas été. Parce que vous le savez peut-être, une fusion avait déjà été envisagée il y a quelques années, la presse en avait parlé. Donc là, on essaye de remettre tout à plat et de discuter en bonne intelligence et d'essayer de trouver quelque chose qui serait positif pour nos deux institutions. Parce que je pense que ce qu'on a en commun, c'est effectivement des collections assez exceptionnelles, des savoir-faire extraordinaires qui ne sont pas valorisés, ni à la nationale ni à l'international. Et donc, on a peut-être qu'ensemble, on sera plus fort et qu'on arrivera justement à faire en sorte qu'on soit plus connu, plus visité, à obtenir plus de moyens pour la rénovation de nos institutions, pour pouvoir rayonner à l'étranger. Donc, c'est vraiment pensé pour essayer d'être plus fort ensemble.
Alors avant de nous concentrer sur le Musée national de Sèvres, quels sont les liens entre le Musée national de Sèvres et la production, la manufacture de Sèvres? C'est-à-dire, quand il y a des nouvelles pièces, est-ce qu'une partie est versée au musée? Comment ça se passe exactement? Est-ce que les collections du musée sont enrichies par la production actuelle?
Alors, pas du tout. Et ça, c'est tout simplement pour répondre à des besoins économiques de la manufacture, quelque part, et puis aussi à son histoire. La manufacture de Sèvres a toujours produit et elle a toujours vendu. La manufacture de Sèvres est née d'abord à Vincennes, d'ailleurs, dans les années 1740, donc dans la première moitié du XVIIIe siècle. Le musée de Sèvres est né au XIXe siècle. Et c'est un projet effectivement du directeur de la manufacture de l'époque, Alexandre Brognard, qui a créé cette collection à l'origine comme une collection d'inspiration pour les artisans de la manufacture. Et au à fur et à mesure, les siècles passant, effectivement, c'est devenu un musée national et enrichi de collections. C'est pour ça que c'est très important de le souligner. Le musée de Sèvres n'a pas que des œuvres de Sèvres. C'est vraiment des œuvres, c'est 50 000 œuvres de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui qui couvrent tous les continents. Donc, on n'est pas du tout sur un musée de la manufacture de Sèvres. Mais, donc, en fait, les œuvres de la manufacture produites historiquement, hein, depuis le XVIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui, ont vocation à être vendues ou à être achetées.
Alors, est-ce que vous achetez des œuvres de la manufacture
Alors,
de Sèvres ?
Maintenant, c'est un peu différent parce qu'on a effectivement un système de versement et on essaye de faire en sorte que toutes les œuvres, les collaborations avec les artistes, on ait systématiquement une œuvre qui soit versée...
comme un dépôt légal, presque.
Voilà, qui soit versée au musée pour effectivement, parce que le but... et que le musée raconte l'histoire de la manufacture. Donc, moi, ma politique d'acquisition aussi, c'est qu'on a, on est loin d'être la collection au monde qui a les plus belles pièces de Sèvres 18e, 19e. Donc, justement, de racheter...
Quels sont les musées qui ont les plus belles pièces
Je pense que c'est la collection... c'est probablement les Anglais, les Américains, la collection de la Reine d'Angleterre, forcément, la Wallace Collection, le Metropolitan à New York, le Getty, ont des collections richissimes. Saint-Pétersbourg aussi, des très, très belles collections. Donc, les plus belles collections de porcelaine de Sèvres ne sont pas en France et ne sont pas à Sèvres. Donc, maintenant... on doit racheter quelque part un peu pour compléter justement les... Parce que dans ce projet de rénovation, il y a, et ça je le défendrai vraiment, et je pense que c'est très très important, il faut que ça soit le musée, ce musée raconte aussi l'histoire de Sèvres, ce qui n'est pas vraiment très très bien raconté en ce moment. Donc il faut justement, la manufacture de Sèvres a une place très importante dans l'histoire de la céramique. On est à Sèvres, adjacent à la manufacture, et cette histoire doit être racontée. Donc il faut que je rachète des pièces, et c'est ce que j'ai commencé à faire depuis quelques mois, notamment avec des pièces 19e extrêmement, extrêmement belles et intéressantes, parce que ce sont des pièces qui viendront compléter et raconter cette histoire.
Mais il y a quand même un lien avec les collections de la manufacture, puisque, alors, quel est le statut des archives où il y a beaucoup de dessins ? Ça a quand même vocation, même si ça part. Enfin, je ne sais pas d'ailleurs à qui c'est affecté, si c'est la manufacture ou au musée. Enfin, c'est quand même des choses, maintenant, une grande partie qui est historique, qui est muséale. Vous avez, je me rappelle, la dernière grande exposition que j'ai vue, parce qu'on pourra parler après de la politique d'exposition, c'était celle sur la manufacture des Lumières, où il y avait beaucoup de modèles. Donc ça, c'était bien des œuvres qui appartiennent. Alors, elles n'appartiennent pas au musée, elles appartiennent à la manufacture ?
Non, justement. Alors, en fait, je suis la directrice du musée, parce que pour simplifier tout, mais en fait, je suis la directrice du patrimoine et des collections. C'est mon vrai titre. Ce qui veut dire que c'est le patrimoine et les collections de cette cité de la céramique. Donc ça veut dire que je m'occupe aussi des collections des archives et des collections des plâtres, pas encore des moules, parce que les moules sont vraiment font partie de la production, donc ils appartiennent encore à la manufacture, et puis effectivement toutes les collections musées. Donc en fait nous avons plusieurs statuts de collection, c'est ce qui fait la complexité de cette institution. On a des collections qui sont régies par le droit de patrimoine, les collections du musée, on a des collections d'archives et de documentaires, et la bibliothèque, aussi historique d'ailleurs, hein, la bibliothèque avec des œuvres du 18e et 19e très très rares et très intéressants qui servaient de modèle aux artisans de la manufacture. Tout ça, on a ça dans nos collections. Et on a une très grande partie des collections qu'on appelle la collection manufacture, environ 250 000 œuvres, essentiellement Sèvres 19e, 20e, 21e, qui elles ne sont pas des collections patrimoniales, elles ne sont pas régies par le droit patrimonial, et elles sont essentiellement mises en dépôt dans les institutions républicaines et dans les ambassades.
Donc, comme le mobilier national.
Exactement. Donc on a une partie de nos collections, nous avons aussi cette mission, pas simplement des missions envers notre public comme tous les musées, on partage cette mission avec le mobilier national de déposer, et donc on fait partie du rayonnement quelque part de la France, des savoir-faire français, en déposant services de table, biscuits, grands vases dans certaines ambassades et dans les institutions républicaines.
Mais alors là on parle d'œuvres qui sont souvent très précieuses, qui sont de vrais objets d'art. Pas toujours, mais et donc ils sont évidemment fragiles, peut-être plus fragiles que d'autres objets du mobilier national, par exemple. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une importance, à un moment donné, à transférer certains pour qu'ils deviennent des objets muséaux et qu'ils soient régis par le Code du patrimoine ? Est-ce qu'il n'y a pas une difficulté là ? Est-ce que dans le projet, par exemple, de ce que vous étudiez actuellement, est-ce que ce sont des choses que vous envisagez ? Puisque je sais que le mobilier national ne dépose plus certaines œuvres trop précieuses dans les bâtiments nationaux parce qu'elles sont justement trop précieuses. Et dans ce cas-là, il les dépose dans des musées, il les expose. Et puis il y a cette question d'inaliénabilité également, donc ça je pense que toutes ces pièces de toute façon sont inaliénables, enfin je l'espère, mais il y a vraiment ça pose des questions, des pièces muséales qui appartiennent à Sèvres mais qui ne sont pas du musée.
En fait, c'est assez fluide, ça se passe assez bien, ce transfert. Déjà, les collections manufactures ont toujours la vocation à un moment à rentrer dans les collections patrimoniales.
Ça arrive donc.
Ça arrive, bien sûr. On fait, légalement, régulièrement, on se retrouve en comité, on peut faire passer ces collections là, un peu au cas par cas et de façon juridique, on peut très bien, au bout d'un certain temps, décider qu'une collection, une œuvre particulièrement importante des collections manufactures, vont passer dans les collections patrimoniales. Mais après, c'est vrai qu'on a aussi, oui, il y a dans ces collections manufactures des œuvres très importantes, notamment on est très riche, et ça le public ne le sait pas forcément, en céramique architecturale, donc des carreaux de Sèvres, notamment de très très belles pièces de la période art nouveau, art déco, qui se trouvent un peu déposées dans pas mal d'institutions, mais... et après on a aussi beaucoup de services de table, alors en fonction de l'importance de l'institution qui reçoit ces dépôts, il y a des services qui peuvent être aussi assez simples, hein. De la porcelaine blanche avec un petit filet d'or, voilà. Bon, c'est...
qui ont vocation à être utilisés, mais enfin
à être utilisés.
Des services très précieux, je pense qu'on ne peut plus les utiliser maintenant, faute de quoi on risque de les voir disparaître. Et les modèles en plâtre, ça, c'est pas des choses qui peuvent être déposées dans des ambassades.
Non.
C'est devenu musée maintenant, ça.
Ça, c'est vraiment. De toute manière, on ne prête pas, a priori, nos modèles plâtre, et même les moules. Tout ce qui est en plâtre pour des questions de conservation. On les a exposés, nous, dans certaines expositions, et effectivement, la Manufacture des Lumières était très bel exemple.
C'est une exposition de sculptures extraordinaires, et c'est des choses qu'on ne voit pas du tout.
Et ça, c'est le projet du musée rénové, et effectivement, de présenter beaucoup plus de ces modèles, parce qu'on a les modèles plâtre, mais on a aussi des modèles en terre cuite, et là, c'est vraiment la main de l'artiste, comme on a un fond, comme vous l'avez mentionné, de dessins très très importants qui sont les esquisses, les premiers jets des artistes, très souvent des projets de décors qui ne sont pas réalisés. Je suis tombée l'autre jour sur un projet de décor de Saint-Aubin pour des projets d'assiettes pour du Barry. Ben voilà, jamais réalisé à Sèvres, mais c'est pour une amoureuse du 18e comme moi, c'est des objets, enfin, c'est très très important et c'est très séduisant. Donc on a des pépites comme ça dans nos collections, et le but est effectivement de les partager avec le public lors d'expositions et beaucoup plus lors de la rénovation du musée. J'aimerais bien avoir un cabinet des dessins, par exemple.
Voilà, c'était une chose dont je voulais parler, effectivement. Il y a de quoi avoir un cabinet de ça.
Absolument. Mais pour ça, il faut avoir un musée avec une climatisation, quand même.
Bien sûr.
Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ouais. C'est pour ça qu'on ne présente pas dans le musée des matériaux sensibles, parce qu'on ne peut pas les exposer.
Alors, parlons maintenant, donc, vous avez dit, des collections abondantes, une grande partie non exposée, dont on espère qu'elles seront bientôt visibles, enfin bientôt dans quelques années, dans ce nouveau musée, et vous enrichissez, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, mais donc on va peut-être regarder un petit peu ce que vous avez beaucoup acheté ces derniers, depuis que vous êtes arrivé, vous avez fait pas mal d'acquisitions. Vous avez un budget suffisant ?
Je, comme un musée national, j'ai la chance énorme de pouvoir préempter. Donc l'État et le service des musées de France, le SMF, nous suit et nous accompagne énormément. Et nous avons aussi une société des amis qui est très... très très proches et qui encouragent ces acquisitions et cette nouvelle dynamique. Et j'ai pu vraiment me reposer sur eux aussi. On a aussi la chance d'avoir eu quelques beaux mécènes qui nous ont aidés sur des acquisitions, notamment la maison Chaumet que je remercie. Et donc voilà, au cas par cas, on essaye, on n'a pas de budget d'acquisition proprement dit dans le budget annuel, mais on arrive à trouver des solutions pour pouvoir acheter et ce que je pense, ce que l'institution doit pouvoir acheter.
Est-ce que vous avez des amis américains de Sèvres?
Alors, pas encore. Ça, c'est un des grands, grands projets.
Parce que vous êtes tout très bien placé pour la créer.
Donc, ça va être créé et on a une de notre prochaine grande exposition qui est justement sur la sculpture à Sèvres de 1740 à aujourd'hui, qui est en partenariat avec une institution américaine et qui ouvrira à New York en 2024. Et je pense que ça sera vraiment le moment de lancer en fait une société d'amis américains parce qu'effectivement d'abord ce sont des très très grands amateurs de Sèvres historiquement c'est un nom Sèvres qui rayonne quand même vraiment dans le monde et notamment aux États-Unis ou dans le monde anglo-saxon donc je pense que cette société des amis américains enfin ou anglo-saxons ou the friends of pour être plus international et plus large aura un grand succès et effectivement j'ai déjà des clients potentiels ou des personnes qui se sont déjà manifestées pour vouloir en faire partie.
D'autant que quand une association comme celle-ci est bien montée avec des avocats américains, etc., on peut déduire, les Américains peuvent déduire des dons à la France. C'est ça qui est extraordinaire.
Absolument.
J'ai toujours trouvé ça extraordinaire.
Extraordinaire, absolument.
Et comme ils ont des lois quand même sur le mécénat assez intéressantes, ils peuvent payer une partie de leurs impôts américains pour enrichir les musées français, ce que j'ai toujours trouvé formidable.
Ah, mais c'est génial. Et ils en sont bien conscients. Et c'est pour ça que toutes ces sociétés, ces Friends of, que ce soit Versailles, Louvre, Orsay et autres, fonctionnent très très bien. Et effectivement, j'ai cette chance avec ce parcours américain d'avoir les contacts. Et j'ai bien l'intention de mettre tout ce réseau au profit de l'institution pour laquelle je travaille maintenant.
Alors, parmi les achats récents, il y a par exemple ce vase ruche que vous avez acquis cette année, en fait.
On en a deux.
Deux vases ruches.
C'est une paire.
Effectivement,
ouais.
De nouveaux vases ruches, tout à fait, ouais. Pour Sèvres. Donc ça, c'est des pièces vraiment exceptionnelles.
Ça, c'est tout à fait exceptionnel. Et ça a été... c'est extrêmement rare, puisque c'était un modèle qu'on connaissait par justement un modèle plâtre qui se trouve dans nos collections. Donc, on connaissait la forme. Il en existe quelques exemplaires à l'étranger, notamment en Angleterre. On savait qu'il y en avait un qui était passé en
vente... Fitzwilliam Museum
ouais, à Cambridge. Et un qui était passé à Drouot il y a en 2019, je crois, juste avant que j'arrive. Donc, on savait que la forme existait, mais que la pièce était extrêmement rare. Et quand on a eu l'opportunité d'acheter cette paire, on l'a pas manqué parce que c'est exactement ce que je recherche, des objets rares, importants, qui montrent à la fois les savoir-faire assez exceptionnels parce que techniquement ces vases qui imitent en fait comme un panier de paille, c'est assez très très difficile à exécuter. Et puis toute l'originalité aussi de faire des vases en forme de ruches d'abeilles, un peu extravagant, un peu donc ça c'est très très important qu'on puisse en avoir dans les collections nationales et à Sèvres.
Alors un autre qui me fascine aussi, je suis pas du tout comme les lecteurs l'ont sûrement compris, les auditeurs spécialistes de céramique, mais je suis fasciné par certains objets comme ce criard argonaute. Ça aussi, c'est un peu j'ai l'impression que c'est la même chose, quelque chose qui va être assez rare avec une forme extraordinaire.
Et puis une couleur.
Une couleur.
Cette pièce est extraordinaire, un gros, gros coup de cœur qu'on a pu acquérir à Drouot il y a quelques mois, par préemption. Et effectivement, une pièce qui du début du 19e siècle, mais par sa forme, en forme de coquillage, et sa couleur violette, en fait, a un côté extrêmement... parce que c'est un coquillage très stylisé, a un côté très, très moderne, extrêmement séduisant. On ne sait pas si c'est un objet des années 1920, un objet d'aujourd'hui.
Il date de 1819, donc
et
c'est ça.
Et il date de 1819.
Donc il va dans cette politique d'enrichir le 19e aussi, peut-être un peu
Absolument.
Plus pauvre que d'autres époques.
Non, justement, non. Le 19e, on est assez riche en 19e, ouais. Mais voilà, en pièces exceptionnelles, pièces, différentes, en couleurs, pour montrer la variété, la richesse, l'extravagance aussi de cette manufacture de Sèvres à travers les siècles. Donc ça, c'était une très belle acquisition. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que vous pouvez découvrir cette acquisition dans la salle d'ouverture de notre exposition « Formes vivantes » qui a ouvert il y a quelques semaines et qui est visible jusqu'en mai. Mais venez la voir parce que c'est une exposition très très belle, très intéressante, qui fait justement redécouvrir notre patrimoine, nos collections, mais aussi avec de nombreux prêts, environ 500 œuvres qui parlent du lien entre la nature, les sciences et la céramique. Donc il n'y a pas que des œuvres de Sèvres. Et c'est un voyage dans le temps et dans l'espace. On commence avec des pièces de Palissy, de Bernard Palissy au XVIe siècle, jusqu'à aujourd'hui. C'est une très très belle exposition.
Donc, c'est une exposition un peu généraliste, j'allais dire, par rapport à la céramique, puisque vous présentez des œuvres. Je vais revenir aux expositions, on va un peu plus vite, je voulais juste terminer sur les acquisitions. Vous avez donc la Société des Amis, dont vous avez parlé, qui, elle a des moyens pour acheter. Quelles sont une ou deux œuvres qu'elle a achetées récemment et qu'elle vous a offertes et qui vous paraissent particulièrement notables?
Ils ont contribué notamment à l'acquisition des vases-ruches. Et de façon très importante pour eux. Donc historiquement, ils sont vraiment très présents. C'est des sommes importantes et je les vraiment remercie. Il y a eu un CA particulier pour pouvoir autoriser ce don assez exceptionnel qu'ils ont fait. Ils ont aussi participé à l'acquisition juste avant que j'arrive. Donc ça a été une acquisition qui a été menée par Christine Germain-Donin, qui m'a précédée à la direction du musée de Sèvres, du plateau, aussi une pièce du début du 19e siècle, de l'art de la céramique. Et là, effectivement, c'est quelque chose de... C'était aussi des œuvres qui coûtent beaucoup d'argent et les amis étaient là. Donc ça, c'est important. Et maintenant, les amis aussi nous aident à restaurer des œuvres, puisqu'on a aussi des œuvres assez importantes qui ont été fortement endommagées dans le temps, notamment...
L'explosion qui a eu lieu pendant la guerre.
Exactement. Notamment, le musée a été détruit en 1943. Et on a encore des œuvres dans des caisses, qu'on appelle les caisses du bombardement. Et là, c'était des pièces du XVIIIe siècle, de Sèvres, provenance royale, Louis XVI. Et grâce à eux et à leur soutien, on a réussi à restaurer ces œuvres.
À la manufacture des Lumières, il y avait également des pièces qui avaient été restaurées, des plâtres restaurés qui étaient dans ces caisses du bombardement.
Ouais.
Donc, ils éditent aussi, alors ça c'est intéressant parce que j'ai sous les yeux donc les deux derniers numéros annuels d'une très belle revue, la revue de la Société des Amis du Musée National de Céramique. Ce sont eux qui financent cela ?
Exactement. Et c'est une revue très importante pour les amateurs de céramique, très pointue, qui fait un peu aussi l'actualité des recherches. Le monde de la céramique est un monde très dynamique, qui couvre beaucoup, beaucoup, pratiquement toutes les époques et tous les milieux. Hein, donc, et ils essayent vraiment de présenter les dernières recherches dans le monde de la céramique de façon très large. Donc encore une fois, ce n'est pas que sur la porcelaine de Sèvres, c'est vraiment sur la céramique en général, art de l'islam, beaucoup sur l'art contemporain aussi. Donc c'est une société très ouverte et très pointue, de passionnés et de scientifiques aussi. Donc, et les auteurs sont essentiellement beaucoup de conservateurs de musées ou d'anciens conservateurs ou d'historiens. Donc c'est une revue qui est vraiment de très très haut niveau.
Alors pour dire qu'on s'occupe maintenant davantage de la manufacture de Sèvres et du musée de Sèvres surtout, c'est que dans notre rubrique où on donne les revues savantes, les sommaires des revues savantes quand elles paraissent, ce qui permet aux lecteurs de pouvoir éventuellement s'intéresser et acheter ces revues. Nous n'avions pas encore, donc nous avons les deux derniers numéros, et maintenant nous le donnerons tous les ans, le sommaire de cette revue.
Bravo.
Pour terminer avec les acquisitions, vous êtes forcément alors que j'aime pas le terme parce que c'est pas concurrence, parce que ce sont les collections nationales ou les collections des musées de province, mais il y a forcément, en tout cas avec certaines institutions qui achètent beaucoup de porcelaine, je pense à Versailles, je pense à Fontainebleau, il y en a d'autres. Le Louvre commence aussi à acheter récemment une très belle assiette de Sèvres. Comment vous vous réunissez? Vous vous parlez avant? Il n'y a pas de risque des fois vous n'êtes pas d'accord et il y en a un qui veut absolument une pièce et l'autre aussi, ça se passe bien?
Ça se passe très très bien, c'est très collégial. Effectivement, quand une pièce importante vient sur le marché, on a forcément des coups de fil entre les uns et les autres. Mais pour l'instant, il n'y a jamais eu de situation où effectivement on avait deux institutions à vouloir la même œuvre. Pour la bonne raison qu'on a tous des politiques assez différentes et des moyens quelque part aussi différents. Versailles, bah, c'est évident que ce sont les pièces versaillaises, donc une provenance Versailles va forcément aller à Versailles. Fontainebleau, leur politique est aussi assez définie par le champ des collections. Le Louvre, c'est plutôt assez l'exceptionnel. Et puis nous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous, on raconte l'histoire de la céramique, on raconte l'histoire de la manufacture avec des pièces plutôt plus atypiques. Le sucrier argonaute que vous avez mentionné tout à l'heure convient parfaitement pour nos collections. C'est pas une œuvre pour Versailles, c'est pas une œuvre pour le Louvre, c'est pas une œuvre pour...
Ah, pour le Louvre, pourquoi? Parce que c'est un chef-d'œuvre.
C'est vous qui le dites, merci.
Non, mais je le pense, je le pense.
Je pense pas qu'il est considéré comme tel. Je pense qu'au Louvre, il serait perdu.
Oui.
Chez nous, il va prendre toute sa place, justement, de montrer et d'expliquer. Et effectivement, c'est un objet, dès qu'on le voit, on a le côté « waouh ». Il est intriguant, il est beau, il est séduisant. Mais dans le Louvre, vous le mettez à côté de tous leurs autres œuvres début 19e, je pense qu'il serait perdu. Alors que...
Parlons maintenant des expositions. Donc, vous nous avez parlé d'expositions que je n'ai pas vues encore, j'en suis navré. Il y a beaucoup d'expositions qui ont lieu à Paris. Il y a tellement d'expositions qu'on est débordé.
C'est pour ça que la nôtre dure jusqu'en mai.
Voilà,
et on espère
c'est bon
que
de le dire.
Après,
c'est bien de le dire.
Oui, il faut venir la voir.
Alors, c'est une exposition qui est certainement extrêmement bien, très bien, mais qui est très généraliste finalement. Ce qui n'est pas mal, hein, parce qu'il faut aussi faire venir les gens pour faire découvrir ces collections que vous ne pouvez pas montrer entièrement. Mais c'est vrai que j'aime bien des expositions très pointues qui montrent tout un aspect et qui permettent de faire avancer vraiment certaines parties de l'histoire de l'art. C'était le cas de la manufacture de Lumière. Ça serait par exemple une exposition sur Brongniart, pourrait être quand même très importante. Vous allez faire, alors j'avais pris avec plaisir qu'en 2024, c'est ça, vous ferez cette exposition sur la sculpture à Sèvres. Donc ça vraiment c'est un thème précis, mais vous pourriez avoir les dessins... Les dessins préparatoires du 18e siècle pour les céramiques. Enfin, il y a 10 000 sujets et j'ai un peu l'impression malgré tout que jusqu'à présent il n'y avait pas beaucoup de politique. Il y avait une politique d'exposition qui était très formidable, c'est pas le problème, mais pas de choses très précises qui permettent de faire avancer un peu l'histoire de la céramique. Est-ce que ça, c'est manifestement, c'est quelque chose que vous allez mettre en place? Comme par exemple, vous aviez fait la Frick Collection avec Gouttière, vous pourriez faire des expositions monographiques. Ou alors Manufacture de Sèvres au 19e siècle qui me passionne avec des peintres dont le nom, par exemple un peintre dont le nom m'échappe, mais Béranger par exemple qui a fait beaucoup de modèles, qui a fait des tableaux, qui était un peintre également. Vous pourriez faire des expositions, ouais, comme cela. Est-ce que vous allez en faire par exemple des expositions monographiques?
Alors c'est une effectivement, moi je suis historienne de l'art et je me suis assez spécialisée dans mes expositions passées quand j'étais conservatrice de faire les grandes monographies, essayer de faire justement des expositions qui font avancer l'histoire de l'art et c'est comme ça que je m'étais positionnée, c'est comme ça que j'ai fait ma carrière aux États-Unis en tant que conservatrice. Ici, le challenge de Sèvres est différent. La Frick Collection est un des musées où on n'a pas problème de visitorat. Tout le monde vient, on est sur la 5e avenue, on n'avait vraiment pas de problème de public. Le problème, le challenge de Sèvres, c'est son public. C'est une institution, probablement parce que c'est un musée qui n'est pas rénové, qui n'a pas encore, ou qui est loin, en bordure de Paris, peut-être qui n'a pas le public qu'il devrait avoir. Donc il faut le créer, ce public. Et avant la rénovation du musée, on est sur cette période de transition, au moment où je suis arrivée jusqu'à le musée rénové, il faut qu'on crée des expositions pour notre public, voire même notre public de promiscuité, un public de famille, un public de Sèvres, Meudon, Paris, Boulogne, les écoles, les scolaires. On a même pas ce public encore. Donc avant de faire des expositions pointues Il faudrait, dans l'idéal, faire des alternances. Une exposition pointue, une exposition plus grand public.
Exactement, oui, je pense que c'est le... Mais beaucoup comme... d'institutions font cela.
Mais comme nous sommes sur des expositions, on fait une exposition tous les 2 ans qui dure 6 mois, très vite, bon, effectivement, la prochaine exposition qu'on organise à Sèvres, celle qui ira à New York sur la sculpture à Sèvres, c'est vraiment... Une exposition qui sera extrêmement pointue. C'est d'ailleurs l'origine de ce projet et un livre où les recherches de Tamara Préau, qui était l'archiviste et une grande historienne de la manufacture de Sèvres, qui en fait, le jour où je suis arrivée à Sèvres, on s'est rencontrés et elle me donne son manuscrit. Comme je vous l'ai déjà dit, le confinement était 15 jours après, donc j'ai pu lire son manuscrit et je me suis dit, il faut le publier, il faut publier ce travail. C'est un travail extraordinaire sur la manufacture de Sèvres, c'est penser, voir, redécouvrir la manufacture et en parler différemment. Il faut la publier. Et aujourd'hui, c'est très difficile de publier des ouvrages comme ça. Et l'idée d'une exposition est assez vite venue, en partenariat avec le Bard Goodrich Center. Le catalogue sera publié par Yale University Press, en anglais et en français. Donc, on est sur quelque chose de très sérieux. Ce bouquin fera date. On le gardera. Et il y aura ce travail-là qui sera effectivement illustré par cette exposition aux États-Unis et en France.
Le prix Pechtot, ça sert justement à publier, si je ne me trompe
des
pas.
Des thèses.
Donc ça ne sera pas dans ce cas-là.
Oui, c'est les Amis, qui est une très très belle initiative.
De cela.
C'est tout récent. C'est une initiative des Amis, de la Société des Amis, du musée, qui effectivement a lancé un prix qui sera donné à une thèse dans le domaine de la céramique pour qu'elle soit publiée. Donc ça, c'est vraiment la mission d'ailleurs, ça va tout à fait dans la même lignée que leur revue. C'est très scientifique, mais c'est aussi vouloir partager ces recherches scientifiques avec un plus grand nombre.
Et pourquoi Pechtot ?
Parce que c'est la personne qui a...
C'est le mécène ?
Voilà, c'est le mécène.
D'accord.
La mécène. Bon.
Disons un mot maintenant des dépôts que vous pouvez faire dans des musées. En particulier, il y a un musée qui ne va pas être très loin de chez vous, dans le département des Hauts-de-Seine. C'est le musée du Grand Siècle. Alors, je recevais lors de la première émission Alexandre Gaddi, qui est venu nous présenter ce projet dont on parle souvent sur la Tribune de l'Art, parce que c'est un projet très, je trouve, très excitant, très nouveau, passionnant, qui va permettre de montrer beaucoup de choses. Mmh. Alors, est-ce qu'il y aura beaucoup de dépôts de Sèvres, parce que la vocation est de montrer tout le XVIIe siècle? Je suppose que vous avez de la céramique également, ou vous en avez ou...
Absolument. D'ailleurs, Alexandre et son équipe étaient à Sèvres dans nos réserves cette semaine pour justement faire du shopping. Et ils travaillent de façon très, très étroite avec nos équipes pour une sélection d'œuvres du XVIIe siècle. Et effectivement, ce musée a vocation à montrer beaucoup d'aspects de ce grand siècle. Et la céramique aura forcément sont une place importante. Donc, on sera absolument partenaire de ce projet.
Et des dépôts dans d'autres musées actuellement que vous allez faire ? Est-ce qu'il y en a ?
On en a plein.
En permanence ?
On a plein en permanence. En fait, on prête énormément. On prête beaucoup aux expositions et on a beaucoup de dépôts, même des dépôts historiques dans des institutions un peu partout. Là, on avait plus de 300 œuvres au Musée des Arts Décoratifs, par exemple, qui viennent de nos collections. Donc, on prête beaucoup et on dépose, on est très présent. Après, bon, on le sait pas forcément, le public ne le sait pas forcément, mais effectivement, nos collections sont visibles aussi ailleurs.
Et est-ce que vous avez vous-même des déficits de dépôts d'autres institutions ?
Oui, beaucoup.
Des dépôts récents, par exemple ? Est-ce que vous en avez
Non, pas beaucoup. Aussi, un peu d'Orsay, on a du CNAP, on a Beaubourg... Oui, on a aussi. Ouais.
Et des collectionneurs privés qui pourraient vous déposer des pièces ?
Non.
Les musées, est-ce que je n'ai jamais su si en France, les musées nationaux avaient le droit d'avoir des dépôts. Ça se passe beaucoup à l'étranger, des fois des pièces un peu...
Oui.
Et est-ce que ça se passe en France rarement,
alors,
finalement ?
Je ne pense pas. Hein. Ça, c'est vraiment, il faut demander à un conservateur du patrimoine, ce que je vous rappelle que je ne suis pas.
Vous êtes, oui, alors,
donc aux États-Unis, effectivement, ça se fait. En France, je ne l'ai pas fait et je ne pense pas que ça se fasse.
Il y a souvent ce débat sur les conservateurs. L'important, c'est qu'à la tête d'un musée, il y a quelqu'un qui connaît ces musées, qui travaille dans les musées. Vous aviez fait vos preuves à la Free Collection, donc ça n'est pas un problème.
Mais c'est vrai qu'effectivement, je crois que je suis une des rares directrices d'un musée national qui n'est pas, qui est pas le...
Et vous avez ressenti de la part de certains conservateurs quelque chose comme... Pourquoi est-ce qu'elle est directrice alors qu'elle n'est pas conservateur du patrimoine ?
Non, je pense que tout le le monde a été extrêmement, extrêmement bienveillant et j'ai été très bien accueillie et je suis toujours très bien soutenue par mes collègues. Et je me sens très bien. Et effectivement, je pense que ma carrière a prouvé que j'étais à même de pouvoir faire ce métier. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de très particulier, le corps des conservateurs, qu'il y a un droit du patrimoine et qu'il faut le maîtriser.
Et justement, c'est intéressant, peut-être pour aborder une des dernières questions que je vous poserai, c'est sur, vous avez fait votre carrière aux États-Unis, donc le système est effectivement très différent. Là-bas, les historiens de l'art rentrent dans les musées, et puis ils progressent au fur et à mesure, et ils deviennent conservateurs, directeurs de musées, etc. En France, c'est différent. Quelles autres différences vous voyez dans le fonctionnement des musées américains, des musées français? Peut-être question de budget, ils ont peut-être plus de budget aux États-Unis, encore, je ne sais pas, ça dépend des institutions peut-être. Quelles sont les différences que vous voyez?
Alors il y en a beaucoup et il y en a de plus en plus, je les vois de plus en plus au fur et à mesure que j'avance, mais effectivement une des choses peut-être les plus importantes, c'est probablement cette question de formation. Et en fait, mais ça dépend aussi des institutions aux États-Unis, mais en grosso modo quand même ce que je retiens, c'est qu'aux États-Unis les conservateurs font un peu tout, dans le sens qu'ils sont à la fois aussi à la recherche de mécénat, ils sont à la fois les ambassadeurs de l'institution, ils font aussi des programmes éducatifs, et puis leur travail de conservateur, comme ici, de recherche, d'organiser des expositions, des acquisitions, présentation d'œuvres dans les salles, etc. Mais il y a comme les musées américains sont pratiquement tous sur des financements privés, La nécessité de recherche de mécénat est très importante. Donc, les conservateurs font beaucoup, beaucoup de recherches de mécénat et sont constamment en lien avec les collectionneurs, les marchands. J'ai l'impression qu'en France, ça l'est moins.
Donc, finalement, en France, ils ont plus un confort qui est qu'il y a quand même beaucoup d'argent qui vient,
oui.
Même si je râle souvent des choses qu'on n'achète pas, il y a quand même, effectivement, il faut le reconnaître, il y a des budgets d'acquisition, il y a des moyens d'obtenir des subventions de fonds publics assez nombreux qui permettent d'acquérir.
Absolument, et puis même de fonctionner. Enfin, il y a un ministère de la Culture, il y a des budgets d'État, ils ne sont pas forcément, je vous vois sourire, et vous avez raison, ils ne sont pas assez élevés, mais ils existent.
Oui,
alors, aux États-Unis, ils n'existent pas.
Est-ce que ça n'empêche pas aussi, justement, parce que moi, les bons conservateurs, je pense, vont aussi chercher de l'argent, il y en a beaucoup qui font ça en France, c'est-à-dire qu'on a aussi des lois sur le mécénat qui sont très intéressantes, donc ils vont chercher des mécènes. Je pense que c'est ce que vous faites d'ailleurs à la tête de la manufacture. Ça, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, vous avez des mécènes qui viennent vous aider. Finalement, on a la chance d'avoir à la fois de l'argent public et on peut avoir de l'argent privé. Donc, ce qu'il faut, c'est des fois que l'argent public ne diminue pas et que l'argent privé puisse, on en puisse en trouver plus. Et surtout, ce qui me semble important, c'est que l'argent privé qu'on trouve ne vienne pas diminuer les budgets publics qui sont donnés. J'ai l'impression que de temps en temps, par exemple pour les propriétaires de monuments historiques, ces derniers temps, ils obtenaient des mécénats et on disait, vous avez des mécènes, débrouillez-vous, on n'a plus besoin de vous donner l'argent public. Est-ce que ça, vous le voyez dans le...
Moi, je ne l'ai pas encore vu directement pour ASEV, mais je pense que c'est effectivement une tendance et un risque. Ensuite, la grande différence, c'est que les mécènes, c'est beaucoup plus difficile de refaire de la recherche de mécénat en France qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a cette politique de philanthropie finalement qui existe quand même moins en France et donc c'est beaucoup beaucoup plus difficile de lever de l'argent privé en France et même travailler avec des mécénats d'entreprise, de faire ça en France qu'aux États-Unis.
Alors par exemple aux États-Unis vous parlez des privés donc les collectionneurs qui aident beaucoup les musées. Est-ce qu'en France il y a beaucoup de collectionneurs de céramique?
Oui, la céramique, c'est vraiment c'est la maladie de porcelaine, on le sait. Il y a toujours eu de très grands collectionneurs. Et donc, il y a de très grands collectionneurs de céramique en France. Ceux qui sont sur une seule période, ceux qui sont sur une manufacture, des plus généralistes. Non, il y a de grands, grands, grands collectionneurs.
Et vous avez des liens avec eux, par exemple, jusqu'au point d'un jour exposer une collection d'un de ces collectionneurs? Ce que font maintenant les musées en France, c'est très bien d'ailleurs, le Louvre a fait ça depuis très longtemps. Les musées de province ont exposé des collections privées. Et ça serait intéressant aussi de savoir un petit peu, parce que, encore une fois, je suis plutôt spécialiste peinture, sculpture, etc., et dessin. Je connais mieux les collectionneurs dans ce domaine, je connais mal les collectionneurs de céramique. Ce serait intéressant de voir des collections privées exposées. C'est quelque chose que vous envisagez ?
On m'a proposé plusieurs expositions, exactement dans ce format-là, d'une collection d'un collectionneur, notamment très souvent dans le but après de recevoir cette collection en donation ou en dation. Mais dans ce, pour l'instant, encore une fois, c'est cette histoire de public. Là, pour l'instant, je pense qu'on a, sur quelques années, à faire des expositions qui sont quand même très pointues, parce que Forme vivante est une exposition très scientifique avec un propos extrêmement intéressant. Et c'est vraiment une exposition intelligente. C'est pas du tout. C'est pour ça que je la trouve très.
Quel commissaire?
Judith Cernogora, la conservatrice de d'art contemporain à Sèvres. Mais c'est une exposition qui avait été montée à Limoges, donc au musée Adrien Duboucher, et qui a eu lieu à Limoges il y a 3 ans, et par Jean-Charles Hameau, qui était le conservateur de Limoges, et Céline Paul, qui est la directrice de Limoges.
Un mot peut-être justement du lien avec le musée Adrien Duboucher, qui fait partie de la même entité, en fait.
C'est exactement ça. On crée encore des espèces de synergies. Hein. C'était un mariage qui a maintenant 10 ans, où dans ce cas-là, c'était Limoges qui avait organisé l'exposition. Nous, on l'a reprise, elle a été modifiée. Donc, Judith a vraiment fait un travail aussi très savant de réadapter ce propos et de l'enrichir autour de nos collections, et un public parisien et pas forcément Limoges. Limoges était plus tourné sur les collections de Limoges. Mais, et notre exposition, celle à table, Repas tout un art, qui a eu lieu il y a 2 ans maintenant à Sèvres, est allée l'année dernière à Limoges. Donc on essaie d'échanger. Après, on collabore sur des politiques communes de présentation, d'échanges, de projets scientifiques.
Un point dont on n'a pas parlé, c'est les colloques. Est-ce que vous organisez des colloques ou est-ce que vous prévoyez des colloques? Est-ce que vous avez
dans le nouveau musée, cher Didier, oui, il faut attendre. C'est un des projets, justement, parce qu'il faut partager ses recherches et il y aura un auditorium pour organiser. Alors, nos amis, les amis de Sèvres, organisent des très beaux colloques. Notamment, il y en a eu un en juin, politique et céramique. Et ils sont en train d'organiser un autre sur le sacré, l'art céramique et l'art sacré, qui aura lieu l'année prochaine. Donc, nos amis
sont... Ils ont lieu où, ces colloques?
Un peu partout. C'est-à-dire que là, il y avait le colloque céramique et politique avait lieu sur 3 jours, sur 3 lieux, notamment à Sèvres et à l'INHA. Non, que sur 2 lieux, INHA et Sèvres. Et puis le prochain, je ne vous en dis pas plus pour l'instant, mais il y aura forcément une journée ou une après-midi à Sèvres. Et puis, eux organisent vraiment des colloques, des conférences. Ils sont très pointus et très organisés et très motivés pour faire ce genre d'événements.
Alors, pour terminer, juste peut-être une future acquisition. Est-ce que vous en êtes tout des trésors nationaux, de la laiterie, de Rambouillet? C'est des pièces dont on a beaucoup parlé sur la Tribune de l'Art, parce que des fois, il y en a qui sont partis. Des fois, on a pu en racheter. Enfin, c'est quand même très important quand on va à Rambouillet, qu'on peut rentrer, qu'on peut voir ce qui a été réuni déjà de ce service exceptionnel. Et on a l'impression qu'il n'y a pas eu jusqu'à présent vraiment une politique très, très, très claire, plus globalement des musées sur cela. Donc là, il y a 2 pièces qui sont au trésor national. Ça coûte très cher, évidemment, mais en même temps, il y a des déductions possibles de 90%. Est-ce que vous avez un espoir de pouvoir les acquérir?
Ah ben, c'est plus qu'un espoir. Mais effectivement, en fait, tout le service de Rambouillet, donc c'était le service de Marie-Antoinette pour la laiterie, pour sa laiterie au château de Rambouillet, les pièces sont à Sèvres, hein. Elles ne sont pas à Rambouillet, elles sont à Sèvres. Et nous,
elles étaient déposées, je me rappelle très bien.
Oui, oui, bon, oui. Elles avaient été déposées, mais elles sont vraiment, nous, dans nos vitrines.
Bien sûr,
c'est vraiment...
Non, mais je ne veux pas vous les prendre, ne vous inquiétez pas. Non.
Une des vitrines phares du musée, donc on les laisse.
Bien sûr, mais bon, c'est vrai que quelque part, on rêve aussi, finalement, de qu'elles reviennent.
Pourquoi pas
enfin, bon,
mais là, on a une très belle vitrine, on a justement des dessins. On a les dessins de la Grenée, on a les pièces antiques, parce que c'est un service de la fin du XVIIIe siècle qui a été fait. Les formes et les décors ont été copiés de pièces antiques de la collection de Vivant Denon. On a la collection Vivant Denon au musée, donc on peut vraiment présenter le modèle antique, la pièce, le dessin, le plâtre, les quelques pièces du service qui ont survécu et qui sont en France. Et toutes les pièces de Sèvres, de ce service qui sont en France, sont dans nos collections. Là, une des pièces phares, c'est le fameux bol saint. qui est effectivement un objet assez atypique puisque c'est un bol qui est en forme de sein, qui repose sur un trépied à tête de bouc, donc un objet complètement vraiment assez extraordinaire. Donc on en a trois en collection. Mais le service comprenait environ 70 pièces et une grande partie a probablement disparu. Il y en a quelques pièces qui sont à l'étranger.
De temps en temps, elles ressortent.
Et de temps en temps, elles ressortent. Et il y en a quelques-unes qui ressortent, il y en a deux qui sont ressorties. On s'est battu pour les classer Trésor National. Et là, je salue vraiment l'enthousiasme. Et justement, c'est une entreprise très collégiale avec mes collègues du Louvre et de Versailles, Marie-Laure de Rochebrune et Yannick Durand à l'époque, où on a vraiment, vraiment tous les trois milité pour que ces objets soient classés, ce qui n'était pas évident parce que ça faisait très longtemps qu'une céramique n'avait pas été classée Trésor National.
Elle répond pourtant à tous les critères.
À tous les critères, et d'ailleurs c'était très facile, c'était vraiment classé à l'unanimité, mais c'était très très bien pour Sèvres, et voilà. Donc effectivement, maintenant on est en cours d'acquisition,
donc
à la recherche
de
mécénat.
Ce sont des trésors patrimoniaux à l'extérieur, ils ne sont pas en France, c'est ça
Non, ils sont en France.
Ils sont en France, donc ils étaient en France depuis plus de 50 ans, donc c'est Trésor National.
Trésor National.
Parce que vous disiez que toutes les céramiques en France, elles sont dans votre musée.
Oui, non, dans la collection publique, pardon,
excusez-moi.
Excusez-moi, il y en a encore, peut-être plus, enfin là...
Bien sûr, oui, certaines vous ne connaissez pas.
Mais là, en tout cas, toutes les pièces qui sont en collection publique sont au musée de Sèvres.
D'accord.
Il y en a peut-être en collection privée que je ne connais pas. D'accord. Il y a ces deux-là qui sont ressortis. Et effectivement, on est à la recherche d'un mécène. D'ailleurs, je vais peut-être faire un appel à mécénat.
En fait, c'est un appel. Marie-Antoinette, en plus, ça, c'est vendeur.
Il y a Marie-Antoinette, il y a l'Antiquité, il y a le 18e, il y a la laiterie. Oui, il y a plein de...
Quel est le délai maintenant pour les acheter?
J'ai encore un an.
Un an.
Un an et demi, oui.
Donc, effectivement, si un riche mécène veut aider la manufacture de Sèvres, on nous fera un bel article dans la Tribune de l'Art.
Exactement. Ouais. Et c'est vrai que l'avantage énorme, et ça, ce sont des avantages en France, hein, d'avoir ces déductions fiscales à hauteur de 92% pour
90% cette... 92.
92.
Je crois que c'est 90, mais en plus, il y a quelques avantages en nature, mais c'est 90%.
Ok, 90%, pardon.
Ce qui est déjà bien.
C'est déjà beaucoup.
Bien. Très bien. Est-ce que vous avez un mot de conclusion, des choses dont nous n'aurions pas parlé, que nous n'aurions pas abordé avant de terminer cette émission?
D'abord, je vous remercie pour cette conversation.
C'est un plaisir.
Et puis, peut-être, effectivement, en attendant la rénovation du musée, on a réinstallé quelques salles l'année dernière, notamment la salle 18e, les faïences de Nevers du 17e siècle, la partie contemporaine. Donc le musée a changé quand même depuis quelques années. Une très belle exposition en cours, des acquisitions qu'on essaye de mettre en valeur et de présenter dans nos carrés actualité aussi, donc à découvrir au musée. Donc on fait tout pour essayer de faire en sorte que votre visite quand vous venez à Sèvres sera enrichissante et un plaisir de vous recevoir bien sûr à Sèvres.
Merci beaucoup Charlotte Vignon, et donc à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.
Merci.